Frères et sœurs, c'est notre joie de participer à ce premier culte qui ouvre le séminaire de baptême. Soyons disposés à être soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Ainsi, nous laissons la parole au messager du jour pour qu'il nous communique de la part du Seigneur selon que le Seigneur l'a orienté à le faire. Merci.
Que la grâce et la paix de notre Dieu soit avec vous tous. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité que nous avons de pouvoir commencer ensemble cette semaine de baptême. Nous remercions Dieu pour sa fidélité et nous remercions aussi les serviteurs de Dieu qu'il a placés à ces lieux et qui ont pensé que nous puissions être parmi les serviteurs qui vont, dans cette communauté, servir au nom du Seigneur pendant cette semaine. Je vais nous demander de pouvoir prier le Seigneur et demander sa grâce pour ces moments d'écoute de la parole de Dieu. Éternel notre Dieu, nous te rendons gloire, nous te bénissons ce matin, parce que tu nous permets d'être sous tes pieds pour apprendre ta parole et apprendre ta volonté sur notre vie. Pendant tous ces instants, Seigneur, nous nous soumettons à ton autorité et nous prions que tu agisses parmi nous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, ce matin, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, nous allons commencer la lecture au verset 13 et nous allons nous arrêter au verset 20. Matthieu, chapitre 16. Le verset 13 à 20 sera le texte de méditation pour nous ce matin. Et ainsi, je vais conduire la lecture dans le nom de Jésus. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples et dit, « Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme ?» Ils dirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux, et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je ferai quoi? Je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. » Alors, il commanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Bien-aimés, pendant cette semaine, une semaine que le Seigneur nous a offerte, pendant cette semaine, nous avons été intitulés une église vivante et stable. Une église vivante et stable. Notre réflexion va plus être orientée vers la responsabilité du disciple pour une église vivante et stable. Quelle est notre responsabilité? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous comme ses disciples pour que nous puissions faire partie des membres d'une église vivante et stable? Nous allons répondre à trois questions pour cette introduction et après les trois questions, nous allons nous arrêter là. La première question sur laquelle nous allons répondre, c'est de savoir pourquoi ce thème doit nous intéresser aujourd'hui. Pourquoi parler de l'Église vivante et stable? La deuxième question sur laquelle nous allons répondre, qu'est-ce que l'Église? Cette Église qui attire notre réflexion ce matin, c'est quoi? Et la troisième question sera, quelle est la vision de Dieu pour son Église? Quelle est la vision de Dieu pour son Église? Aujourd'hui, c'est juste une introduction et les détails, nous allons la voir pendant la semaine. La première question est de savoir pourquoi ce thème peut nous intéresser aujourd'hui. Pourquoi parler de l'Église vivante et stable aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, permettez que je vous dise ce matin que le plus grand trésor que Dieu a dans le monde aujourd'hui, c'est son Église. Le plus grand trésor que Dieu a dans le monde aujourd'hui, c'est son Église. La réalité, c'est que Dieu, en regardant le monde, il n'est pas intéressé par la technologie, les découvertes chimiques, tout ce que nous faisons. Ce qui l'intéresse plus, c'est son Église. Dieu aime tellement son Église que cette Église est le fruit de son sacrifice. Et quand vous pouvez le lire, comme vous pouvez le lire à Éphésiens chapitre 25 suivant, la Bible dit, Dieu, et alors à travers Jésus-Christ, il s'est livré lui-même pour l'Église. Il a voulu rendre cette église sainte en la purifiant avec l'eau qui lave, et cela par la parole. Dieu a voulu se présenter ou le faire paraître, il a voulu présenter l'église ou le faire paraître devant lui de manière glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Dieu, en regardant le monde, il regarde son Église. La deuxième chose la plus importante dans cette vérité, c'est que Dieu, alors à travers Jésus-Christ, il a promis de revenir dans le monde. Mais la Bible ne dit pas que Dieu viendra voir les découvertes de ce monde. Dieu viendra voir les constructions de ce monde. Dieu, lorsqu'il revient en Jésus-Christ, il reviendra prendre quoi? Il reviendra prendre son Église. Ça veut dire en réalité, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez tout rater dans ce monde, mais jamais être membre de l'Église. Vous pouvez tout abandonner dans ce monde, mais jamais abandonner l'Église, parce que c'est la chose la plus importante devant Dieu. La Bible dit, tout ce qui est dans le monde va passer, mais bien-aimés frères et sœurs, l'Église va demeurer parce qu'elle va aller avec le Seigneur dans l'éternité. Ça, c'est très important comme enfant de Dieu, et c'est très important pour nous de parler de l'Église, parce que c'est vraiment la richesse et le trésor de Dieu dans ce monde. La deuxième chose, la première cible du diable dans le monde aujourd'hui, c'est l'Église. Allô? La première cible du diable dans le monde aujourd'hui, c'est l'Église. Si le diable peut menacer les enfants de Dieu, la réalité c'est que le diable cherche une chose, il veut détruire l'Église. Et s'il réussit à détruire l'Église, il a réussi sa mission. La grande chose que le diable combat dans le monde, c'est l'Église. L'Église, c'est la plus grande menace pour le diable. Et même s'il utilise plusieurs stratégies, c'est parce qu'il veut à tout prix détruire l'Église. Le diable n'a pas besoin de tes enfants. Le diable n'a pas besoin de ta famille. Le diable a besoin de ce que l'Église est en train de construire en tes enfants. Le diable a besoin de ce que l'Église est en train de construire à toi. C'est pour cela qu'il fait le combat contre toi. Parce que la plus grande chose qu'il combat dans le monde, c'est l'Église. Est-ce qu'on est ensemble? Mais cette Église, c'est quoi au juste? Un trésor pour Dieu et en même temps, une menace pour le diable et un premier cible pour le diable. L'Église dont il est question ici, et l'Église qui va nous intéresser pendant cette semaine, ce ne sont pas les bâtiments que nous construisons pour que nous allions adorer le Seigneur là-bas. Je vais dire à quelqu'un ce matin que le bâtiment dans lequel nous adorons le Seigneur, lorsque nous irons au ciel, nous allons laisser ce bâtiment ici. L'Église dont nous parlons ici, c'est cette Église qui, si je le définis, le mot Église vient du grec « ecclesia ». Et ecclesia signifie une communauté ou une assemblée des personnes tuées du monde pour vivre selon la volonté de Dieu et honorer le Seigneur quotidiennement. C'est ça l'Église. L'Église, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui ont été tirées hors du monde. Ils sont mis à part pour Dieu et ils cherchent quotidiennement à vivre la volonté de Dieu et à honorer le Seigneur dans leur vie. C'est ça l'Église. Et lorsque notre thème s'intitule « Pour une église vivante et stable », en réalité, c'est de cette communauté-là que nous sommes en train de parler. Et c'est cette communauté qui forme les trésors les plus importants pour Dieu et les trésors pour lesquels le Seigneur a même accepté le sacrifice. L'ensemble de toutes ces personnes qui confessent Dieu, ceux-là qui ont accepté d'être mis à part pour Dieu, afin que dans leur vie, ils vivent quotidiennement la volonté de Dieu et qu'ils honorent le Seigneur, ce sont eux qui s'appellent l'Église. L'Église, c'est donc la communion de toutes ces personnes qui servent valablement le Seigneur. Ceux qui ont leur nom inscrit dans les livres de vie, ceux qui attendent le retour de Christ et qui aspirent à vivre avec lui éternellement. Ce sont ceux-là qui s'appellent Église. Ce sont donc les vrais enfants de Dieu. Ils ont été lavés de toutes les souillures du monde et ils vivent en obéissant quotidiennement à la volonté de Dieu. Si tu es parmi ces gens, tu es le plus grand trésor de Dieu dans ce monde. Alléluia. Si tu es parmi ces gens, lorsque le Seigneur te regarde, il trouve en toi le plus grand trésor qu'il a dans le monde et il veille sur toi. Mais en même temps, tu es la première cible du diable parce qu'il veut à tout prix te détruire. Cette église ici, c'est cette communauté des enfants de Dieu, des personnes qui ont accepté d'être mises à part pour appartenir au Seigneur. Ils ont leur nom inscrit dans les livres de vie. Et comme vous le savez, Jésus dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que vous faites dans ce monde, ne vous réjouissez pas de miracles et de toutes les réalisations, réjouissez-vous plutôt parce que votre nom est inscrit dans les livres de vie. Donc, réjouissez-vous plutôt parce que vous faites partie de l'Église, corps du Christ ou alors de la famille des enfants de Dieu. C'est ça l'Église. Et c'est cette communauté pour laquelle le Seigneur nous appelle à appartenir. Alors, quelle est la vision de Dieu pour son Église? Cette Église, cette communion des enfants de Dieu, qu'est-ce que Dieu a comme vision par rapport à cette Église? La première chose, c'est que la vision de Dieu de manière synthétique pour son Église, c'est qu'elle soit vivante et stable. La vision de Dieu pour son Église, c'est qu'elle soit vivante et qu'elle soit stable. Donc le Seigneur veut nous voir, nous qui avons été mis à part pour Dieu, vivre de manière vivante et stable. Aujourd'hui, je ne saurais pas définir ce concept de vivante et stable, mais je prie que le Seigneur vous rende disponible, afin que pendant la semaine, nous puissions découvrir ensemble ce que signifie une Église vivante et une Église stable. Comment je vais faire pour rester vivant et pour rester stable dans ma communion avec le Seigneur? Le texte que nous venons de lire à Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 20, c'est la première occurrence du mot « église » dans la Bible. Le texte de Matthieu que nous venons de lire, c'est là où, quand vous commencez à Genèse, si vous lisez la Bible de Genèse jusqu'en Apocalypse, la première fois où on parle de l'église, c'est à Matthieu chapitre 16. Et c'est très important pour nous, en commençant ce séminaire, de lire ce texte-là, qui révèle pour la première fois dans la Bible le mot « église ». Le mot « église » ici, pour la première fois dans la Bible, n'est pas sorti de la bouche d'un homme. Elle est sortie de la bouche de Christ lui-même. Et ça, c'est très important pour nous qui voulons comprendre ce qu'est la vision de Dieu pour l'église. Mais permettez que je vous dise, nous revenons dans le texte, que le texte que nous venons de lire, du verset 13 au verset 20, commence par des choses importantes. Si vous lisez Matthieu chapitre 16, à partir du premier verset jusqu'au verset 4, vous allez trouver que ce chapitre commence par un groupe de gens qui s'appellent les pharisiens et les sadducéens. Ceux-ci viennent voir Jésus et la Bible dit, il faut lui mettre devant un piège. Et le piège qu'il veut lui tendre, c'est de dire, donne-nous un signe qui montre que tu viens vraiment du ciel. Première incompréhension. Ça, c'est la première incompréhension qui est dans ce texte ici. Donne-nous un signe. Nous t'avons vu, mais nous ne savons pas qui tu es. Et si tu dis que tu viens du ciel, donne-nous un signe qui montre que tu viens du ciel. Jésus voit dans leur cœur et dit, aucun signe ne vous sera donné si ce n'est le signe de Jonas. Parce que bien évidemment, il a vu un nœud de personnes qui voulaient seulement lui tendre un piège et qui ne voulaient pas réellement le connaître. Ça, c'est la première chose que vous pouvez trouver dans ce chapitre 16. Quand vous lisez les versets 5 jusqu'à 12, Jésus donne une mise à garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens. Il dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Ils sont un piège pour les disciples par le fait qu'ils veulent désorienter les disciples. Et Jésus va dire à ses disciples, faites attention à ces gens qui veulent vous amener loin de ce que vous êtes en train de faire. Les pharisiens dans la Bible, ce sont des personnes qui s'intéressaient seulement à la piété simple sans s'attacher à la volonté de Dieu. Ils étaient des personnes qui étaient liées à la loi. Ils disent, si tu fais ceci, tu es un enfant de Dieu. Si tu fais ça, tu es un enfant de Dieu. Ils avaient des lois à lire. Et c'est ça qui les intéressait seulement. Et ils ne croyaient pas à autre chose. Ils ne croyaient pas non plus au Messie. Les sadducéens, quant à eux, ils sont des personnes qui sont presque comme les pharisiens. Mais la différence, c'est qu'eux ne croyaient pas à la résurrection. Et Jésus, quand il les rencontre, ces deux groupes déjà vont lui tendre le piège pour dire, si tu es vraiment celui qui vient du ciel, il faut que tu nous montres un signe. Et Jésus va dire, ces gens sont un piège pour vous. Vous devez faire attention à ce qu'ils veulent faire parce qu'ils veulent vous désorienter. Ils veulent vous désorienter de la volonté de Dieu. Je dis ces deux choses qui précèdent les textes que nous avons lus parce que ce sont des incompréhensions sur l'identité de Jésus. La première chose, les pharisiens et les sadducéens ne connaissent pas réellement qui est Jésus. Et à cause de cela, ils ont une compréhension autre de ce qui est Jésus. Et la deuxième chose, Jésus dit à ses disciples, faites attention à ces gens qui ne sont pas attachés à nous, ces gens qui ne vivent pas et qui ne sont pas dans la même orientation avec nous. C'est alors après cela que Jésus introduit ce que nous venons de lire. La Bible dit, Jésus pose la question à ses disciples et dit, au vu des gens, ou alors qu'est-ce que les gens disent que je suis? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Dans ma version, il est dit, au dire des hommes, qui est le fils de l'homme? Jésus pose cette question parce qu'il est en train de vouloir sonder le niveau de compréhension des disciples sur son identité. Ils sont dans une communauté où il y a les sadducéens, il y a les pharisiens, il y a tout ce qui s'est dit. Et Jésus dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? La Bible dit, certains disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es prophète, et voilà. Et Jésus ne s'arrête pas là-bas, il dit, et vous-même, qu'est-ce que vous dites que je suis? La Bible nous révèle Simon Pierre qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, quand il écoute cette confession de Pierre, il dit, Simon Pierre, tu es heureux parce que ce que tu viens de dire là, ça ne vient pas de toi. Ce que tu viens de dire là, c'est une révélation que tu as de la part de Dieu. Mais la chose qui m'intéresse dans tous ces textes, c'est la phrase qu'il dit. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Bien-aimé, la confession que Pierre a faite a été la base et le fondement sur lesquels Jésus dit, sur cette pierre, c'est-à-dire sur cette confession, je bâtirai mon église. Regardons trois choses là-bas. La première chose, l'Église, c'est une construction de Christ ou de Dieu lui-même. Alléluia.
L'église n'est pas une construction humaine. L'église n'est pas construite par le pasteur. L'église n'est pas construite par les anciens de l'église ou les serviteurs de la communauté de croyants. L'église, c'est une construction de Christ lui-même. C'est-à-dire en réalité, si vous voulez être membre de l'église, vous devez vous rassurer que vous avez un jour été en contact avec le Christ lui-même, parce que c'est lui qui construit lui-même son église. La deuxième chose ici, dans les paroles de Jésus, il dit « Je bâtirai mon église, mais après avoir bâti mon église, la puissance de la mort n'aura pas de force sur lui. » La chose la plus importante. L'église de Christ, même la mort qui est le dernier ennemi de l'homme, même la mort devant laquelle tout le monde reste bouche fermée, elle ne fera rien sur l'église de Christ. La réalité, c'est que lorsque nous regardons l'église comme la communauté des enfants de Dieu, c'est que dans la vision de Dieu, l'attachement à Dieu qui nous permet d'être membres de l'église, permet en même temps que même la mort ne puisse pas avoir le dernier mot sur notre vie, parce que aussi longtemps que vous êtes déjà membre de l'église, même si vous mourrez, vous ne mourrez pas, vous vivrez encore avec Christ éternellement. Alléluia. Même les forces du mal, même toutes les stratégies que les diables peuvent monter, si tu es connecté à Christ et tu es déjà membre de l'église, même la puissance de la mort n'a pas le pouvoir sur toi. J'aime le soyeur qui dit « Hata misingi ya hadeze, hadeze, haita weza kanisa la Bwana. » Et la troisième chose que Jésus dit, je préfère lire ce texte ici, c'est le verset 19. Le verset 19, Jésus dit ceci. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, afin que ce que tu lieras sur la terre sera lié où? Et ce que tu délieras sur la terre sera délié où? Ça, c'est une grâce des enfants de Dieu. C'est une grâce de l'Église. Permettez que ce matin, dans ma manière de lire ce texte, que je vous dise, bien-aimés dans le Seigneur, être attaché à Christ, faire membre de l'Église, la communauté des croyants de Christ, te permet d'avoir les clés du ciel, à telle sorte que ce que tu vas lier sur la terre va être lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre va être délié au ciel. C'est pour cela que les enfants de Dieu, ils ont un pouvoir sur la terre et dans les cieux, parce que celui qui les leur a donné, c'est celui qui a reçu le pouvoir sur la terre et dans les cieux. Quel privilège d'être membre de l'Église. Jésus dit, Pierre, sur la confession que tu as faite, je vais bâtir mon église. La force du mal ne va pas agir contre cette église, mais en même temps, je te donnerai les clés. Je te donnerai les clés afin que ce que tu vas lier sur la terre soit lié au ciel et ce que tu vas délier sur la terre soit délié au ciel. Quel privilège d'être appelé enfant de Dieu et d'appartenir à l'église de Dieu. Ce qui nous permet d'avoir la puissance de lier les choses et de les délier pour la gloire de Dieu. Quand je lisais ce texte, je me disais, Seigneur, augmente notre foi. Et j'étais en train de dire, qui sont membres de l'Église? Qui sont en train de lier les choses sur la terre et ça se lie au ciel? Qui sont en train de délier les choses et les choses, le miracle se passe au ciel? Et après, c'est là quand vous lisez les versets 23, 21 jusqu'à 23, Jésus dit, maintenant il faut que je meure. Il faut que je meure. La Bible dit, Pierre va lui dire, attention, il ne faut pas quand même dire des choses comme ça. Mais il va dire, retire-toi de moi. La réalité, c'est que quand vous lisez le texte qui vient après, celui que nous avons lu, Jésus va parler de la résurrection, il va parler de sa mort et de sa résurrection. Pourquoi parler de la mort et de la résurrection après l'Église? Parce que Jésus est en train de vouloir montrer aux disciples que ce qui va vous donner la force d'être fort, d'être vivant, d'être stable dans ce monde, c'est la puissance de la résurrection. Parce que moi-même, je vais affronter la souffrance, mais après 3 jours, je vais ressusciter. Et c'est ça le miracle des chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est bâtie sur le miracle de la résurrection de Christ. Jésus, après avoir dit, je bâtirai mon Église, mais après il dit, moi je vais mourir, mais après 3 jours, je vais ressusciter. Une manière de dire, même quand vous passerez par des moments difficiles, si vous appartenez à moi, si vous êtes membre de mon Église, regardez ma mort et ma résurrection et comprenez que même la mort, je l'ai vaincue, j'en ai sorti vainqueur. Et vous-même, quand vous passerez par là, comprenez que ceux qui appartiennent à Dieu, ils ont déjà la puissance même sur la mort. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, appartenir à Christ nous permet même d'avoir la puissance sur la mort. Et ceux qui sont à Christ, je vais vous annoncer ce matin, vous ne mourrez pas, vous vivrez pour raconter la gloire de Dieu. Et même quand il faudrait que vous mourrez pour le Seigneur et vous vivez pour le Seigneur. C'est pour cela que je vois Paul dans la prison. Il est en train de dire aux Philippiens, c'est même important que je meure, parce que là, je vais m'asseoir avec mon Seigneur dans les cieux. Mais s'il faut que je reste pour votre affermissement, je peux encore rester. Bien-aimé dans le Seigneur, l'attachement à Christ, appartenir à l'Église de Christ, nous avons une stabilité, nous sommes vivants parce que Christ que nous acceptons de suivre, il est celui qui est passé par la mort. Mais la Bible dit, la mort ne l'a pas englouti, la terre n'a pas été amaisie de consommer le Christ. La terre a rendu le Christ, il en est sorti vainqueur. Et même quand je suis à Christ, si je meurs, ce n'est pas un problème parce que celui que je suis en train de suivre, il est celui qui a résisté. Et la Bible l'appelle le prémisse de la résurrection. Donc, je ne suis pas en train de vendre que je ressusciterai. Je dis que je ressusciterai parce que le maître que je suis, il est ressuscité. Alléluia. La dernière chose sur ce chapitre ici, sur le verset 24 jusqu'au verset 28, et Jésus va dire, la grande chose pour vous les disciples, la grande chose, si vous voulez me suivre, apprenez à vous renier vous-même. Apprenez à vous renier vous-même. Et j'ai mis une chose qu'il dit ici, entre les versets 24 et 28, il dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde en Dieu et de perdre son âme? Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, à quoi te servira-t-il de construire des maisons, d'acheter des voitures, de faire des grandes découvertes, de faire des choses dans ce monde, mais de perdre ton âme? Jésus dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tel que nous voyons l'Église ici, bien-aimés, pour clôturer ce message, la vision de Dieu pour l'Église et l'origine alors de l'Église nous fait comprendre que l'Église vient d'une volonté de Dieu qui veut rendre efficace son ministère sur la terre. Il veut établir sa royauté et contrecarrer tous les plans du diable afin que par et à travers l'Église, le monde reconnaisse qu'il est Dieu. C'est pour cela que notre texte est placé entre deux contextes. Dans la première partie, les gens se questionnent sur son identité. Ils disent, bon, on ne te connaît pas, tu viens d'où? Mais à la fin, il dit, je suis celui qui va mourir et qui va ressusciter. Pour dire, en réalité, lorsque vous n'êtes pas membre de l'Église, vous vivez dans le « je ne sais pas qui est Christ ». Vous vivez dans le « je vais avoir un signe ». Mais lorsque vous êtes déjà membre de l'Église, votre vie est basée sur la mort et la résurrection de Christ. Votre vie est basée sur les dons personnels à Dieu et vous commencez à vivre non pour vous-même, mais vous commencez à vivre pour Dieu. Et pendant cette semaine, nous sommes en train de dire, Seigneur, apprends-nous à être membre de ton Église, mais aussi dans ce monde, à demeurer vivant et à demeurer stable. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, pendant cette semaine, Dieu veut nous outiller pour que nous puissions être à mesure de faire un combat contre les diables. pour que nous puissions être à mesure de nous tenir dans le monde, quels que soient les risques visibles, que nous restions attachés sur la seule volonté de Dieu. Et mon invitation pour toi ce matin, c'est de dire, rends-toi disponible. Le Seigneur veut te parler. Il veut t'orienter vers sa volonté et il veut te dire comment il veut te voir vivre, comment il veut te voir marcher dans cet attachement à sa volonté. Pour une église vivante et stable, cette semaine va nous aider à pouvoir nous ouvrir sur la parole de Dieu, à pouvoir ouvrir nos yeux sur la parole de Dieu et comprendre comment Dieu veut construire notre personnalité comme enfant de Dieu et comme de personnes qui s'attachent à lui à toute éternité. Jésus a dit, je bâtirai mon église et la force du mal ne va pas contrancher contre cette église. Mais en même temps, celui qui est membre de l'église, à Pierre, il va donner les clés du ciel afin que tout ce qu'il va lier sur la terre soit lié dans les ciels et tout ce qu'il va délier sur la terre soit délié dans les ciels. Est-ce que tu as besoin de ce privilège? Est-ce que tu as besoin de cette grâce? Est-ce que tu as besoin de découvrir le secret de Dieu sur son église et ce qu'il veut faire à travers son église dans le monde? Si tu as ces besoins, que le Seigneur t'aide et que le Seigneur te rende disponible pour la semaine afin d'être au rendez-vous au pied de Dieu et d'être formé sur la volonté de Dieu en ce niveau. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.